bonjour mesdames et messieurs. Donc nous avons choisi pour organiser la parole entre les trois intervenants une logique inductive, c'est-à-dire que nous allons partir plutôt de la pratique. Et ensuite, donc la parole sera à Bernard Devers. Ensuite, la parole sera au juriste, M. Mécenas. Et ensuite, le philosophe pourra tirer des éléments, des enjeux de tout cela. Ensuite, nous efforcerons de discuter entre nous pendant une vingtaine de minutes, un petit peu plus, si possible. Et puis ensuite, bien entendu, à partir de vos questions, chacun pourra répondre et ça pourra aussi relancer le débat entre nous. Voilà, donc nous avons convenu que les exposés sont de 15 à 17 minutes au maximum pour laisser du temps ensuite au débat. Et donc nous allons commencer alors avec Bernard.
Bien, bonsoir. Donc je vais effectivement, le témoignage qui m'est demandé à partir de cette pratique, et le premier témoignage, c'est d'abord de dire que ça va mal. Et ça ne vous étonnera pas. La précarité augmente, la misère aussi. Il y avait, ce matin, je lisais en fait une enquête qui disait que entre 2008 et 2011, les pauvres avaient augmenté en France, c'était passé de 400 000 à 1 million. Donc on voit bien combien la situation est, elle est dramatique. Et le rapport de l'abbé Pierre, qui a été présenté ce 1er février, souligne la gravité de la situation. Alors, vous n'êtes pas là, bien sûr, ce soir, simplement pour m'entendre dire « ça va mal », en fait. Et la question, c'est peut-être de se dire comment, finalement, on peut essayer d'éradiquer ce mal. Je voudrais souligner qu'en France, il y a un enfant sur cinq qui est victime du mal logement. Un enfant sur cinq. 600 000 enfants sont victimes de ce mal-logement et sont victimes deux fois. La première fois, naturellement, dans l'aujourd'hui de leur vie, avec des conditions de vie qui sont tout à fait difficiles, quand il y a, en raison de l'absence du logement, ou en tout cas, souvent, d'un logement qui est insalubre. Et dans ces conditions, comment étudier ? Donc, en fait, c'est aussi l'avenir de ces enfants qui est en difficulté. Je crois qu'il faudrait vraiment prendre conscience de ce drame. Un enfant sur cinq. Et que sur le plan européen, c'est 15 millions d'enfants qui sont victimes du mal logement en raison de la précarité ou de la misère. On pourrait dire qu'en fait, le logement, c'est ce syndrome qui récapitule, au fond, toutes les misères, toutes les situations de précarité. Donc l'action qui est celle d'Habiter Humanisme est d'abord considérablement insuffisante. Et donc la première observation, on pourrait peut-être me dire ce soir, vous pourriez me dire ce soir, mais vous le ferez peut-être pas parce que vous avez de la délicatesse, mais en disant finalement, est-ce que vous êtes vraiment habilité pour parler, quoi ? Habitat Humanisme a mis en place un laboratoire. Et dans un laboratoire, on trouve des chercheurs. Donc nous sommes des chercheurs en solidarité. L'action, elle a donné quelques fruits, mais sans qu'elle soit véritablement de l'ordre de l'anecdote, elle reste quand même, malgré tout, dans une situation tout à fait d'insuffisance. Pour marquer les chiffres, on a logé, en fait, 17 000 familles, mais presque sur 28 ans. Donc on voit bien que ce sont des milliers de familles qui sont en grande difficulté. Et on est un peu ces coureurs de fond, où au fond on s'essouffle, puisque la précarité et la misère gagnent bien plus du terrain que nous sommes en capacité de pouvoir, en fait, éradiquer ce mal. Alors, quelle est cette politique du logement ? D'abord, est-ce qu'il y a des politiques du logement ? Elles sont nombreuses. Il y a eu une politique de la ville qui a été une politique importante, qui n'a pas donné d'ailleurs les fruits attendus, mais on peut se poser la question. On peut se dire aussi que sans cette politique de la ville, la situation serait encore plus grave. La déchirure du tissu social serait bien plus forte. Comment essayer de trouver un certain nombre de propositions ? Il y a des propositions tout à fait intéressantes qui ont été celles, par exemple, de Louis Besson, qui était ministre du logement avec M. Jospin. Il a, avec la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, et cette loi qui est d'ailleurs vient d'être modifiée avec la loi Duflot pour passer de 20 à 25% chaque fois qu'une commune aura plus de 3500 habitants, il faudra pouvoir réaliser au moins 25% de logements sociaux. Mais la première difficulté, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle que revêt cette réalité du logement social ? Le logement social, c'est un financement, mais ce financement, il est notamment celui du prêt locatif social, et 70% de la population française est éligible à ce type de financement. Donc, il est bien évident que les populations les plus pauvres n'ont pas accès, en fait, à la question du logement. Il faudrait ici entendre ATD Carmon, hein, qui souligne très, très justement, et dans le cadre de la conférence sur la pauvreté, on a, avec ATD Carmon d'Habité Humanisme, on a présenté un rapport, justement, pour la question du logement, l'accès au logement des personnes dont le reste, non pas à vivre, on dit un reste à vivre, mais ce n'est pas le reste à vivre, c'est le reste pour vivre, est inférieur, et ce sont des centaines de milliers de familles inférieures à 100 euros mensuels. Dans ce contexte de crise, comment faire bouger un peu des lignes ? Alors, Habité Humanisme, nous avons mis en place une approche de l'économie solidaire qui est en train de porter des fruits. Et à noter que, on ne l'aurait pas pensé il y a 5 ans, les murs sont en train de tomber entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Il y a véritablement une certaine recherche, une certaine attente, en fait, de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise, aussi à travers les CE, les comités d'entreprise, comment cette entreprise peut être davantage citoyenne. Et que cette citoyenneté, cette attention aux situations de fragilité devient de plus en plus une question qui devient un peu essentielle. À noter, par exemple, qu'une association comme la nôtre, en fait, elle est quand même beaucoup soutenue à travers l'épargne salariale, et que cette épargne salariale, sans elle, en fait, on tiendrait aussi beaucoup de discours. Donc, il y a, et quand on rencontre les CE, quand on rencontre les conseils d'administration de sociétés moyennes ou de grands groupes, finalement, la question qui est posée, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin au niveau de l'épargne salariale ? Elle ne peut faire que 10%, elle ne peut pas aller plus que 10% de l'épargne qui est investie par une entreprise pour ses salariés, que c'est finalement un salaire qui est un salaire différé. Donc, ça prouve bien que finalement, cette demande marque à la fois, du côté des entreprises, une attention aux personnes qui sont en situation d'exclusion, et que ceux qui sont inclus et qui sont par là même, en fait, salariés de l'entreprise, se disent « nous pourrions aller plus loin au regard d'un effort ». Donc il y a quelque chose ici d'extrêmement positif. Savoir que l'épargne des Français, l'épargne circulant, avec les contrats d'assurance-vie, les livrets A, etc., ça représente en fait 3 500 milliards d'euros. Voilà l'épargne des Français. Je ne parle pas de l'épargne investie dans l'immobilier, hein, je parle de l'épargne qui est en fait une épargne à court terme, qui est immédiatement mobilisable. Et sur cette épargne, il y a notamment les contrats d'assurance vie qui représentent 1500 milliards d'euros. Donc le travail actuellement qui est en train de se négocier avec Benoît Hamon, qui est ministre, c'est la première fois qu'il y a un ministre délégué à l'économie, chargé de l'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est quand même tout à fait intéressant. Et il y a une attention pour se dire comment, en fait, on peut parvenir, puisque devant la crise des finances publiques, au fond, la question qui est posée, c'est de dire quelle solidarité nouvelle à faire naître. Et cette solidarité nouvelle à faire naître, elle passe, en fait, aussi à la fois par l'entreprise et par l'épargne des Français. Il doit y avoir un texte qui doit sortir, on pense, d'ici le mois de juin. Donc il y a, et que sans, finalement, et là, il y a une possibilité de faire véritablement bouger des choses. Hein. Si on prend, par exemple, si sur les 1500 milliards, vous mettez 5% sur de la solidarité, ça ne veut pas dire donner, hein, naturellement. Hein. C'est investi par les organismes financiers sur notamment la question du logement, vous changez la donne. Voilà, donc quel type de politique à mettre en place? Il y a donc une réflexion à faire sur l'économie sociale et solidaire. Doit-on d'ailleurs parler de l'économie sociale et solidaire? Je pense ici que le philosophe et le juriste pourront aussi répondre. L'économie, elle doit naturellement avoir un enjeu sociétal. Elle doit prendre en compte les difficultés d'une société. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, notamment sur ce concept tout à fait dynamique qui s'appelle l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que associations et entreprises parviennent à créer en fait des structures un peu communes, en tout cas de mettre en place des synergies pour essayer de lutter contre des situations de grande pauvreté. Bon, ça reste encore effectivement un peu nouveau, mais je suis absolument persuadé qu'en fait, dans les années qui vont venir, il va y avoir en fait une ouverture assez forte. Retenons cette approche de l'entrepreneuriat. Une des difficultés, c'est en fait la question en fait de la régulation foncière. Il faut savoir que les terrains, ils ont, sur les 8 dernières années, ont augmenté en fait de 140%. Alors que les revenus des salaires, pendant cette même période, en termes de revenus médians, ils ont augmenté de 28%. 140% d'un côté, simplement pour le problème des terrains, et 28% au regard des revenus. Donc on est dans une situation de rupture. Enfin, la crise du logement, elle fait apparaître une rupture entre le coût du logement et les ressources des familles. Au point que les classes moyennes, notamment dans les territoires tendus, on appelle territoires tendus en fait les grandes agglomérations, là où par exemple en Île-de-France, il faut, pour qu'une famille ait un logement dans le parc HLM, il faut qu'elle attende 10 ans. Aller construire un foyer lorsqu'il faut attendre 10 ans pour avoir un logement. Donc on est quand même dans des situations tout à fait ubuesques, tout à fait dramatiques. Sur la question de la régulation foncière, donc c'est, et là aussi le juriste pourrait aussi nous aider, c'est comment ces charges foncières représentent en fait des rentes foncières. Et les rentes foncières, naturellement, elles appauvrissent, elles conduisent à des appauvrissements. Nous avons présenté aux gouvernements successifs, hein, d'ailleurs en fait, sans être entendu par les uns et par les autres, hein, parce que quand on aborde le problème de la régulation foncière, comme presque 58% des Français sont propriétaires de leur logement, en fait, personne ne veut bouger, quoi. On dit finalement, j'ai un bien, 58%, donc en fait, c'est très très compliqué d'obtenir une majorité pour essayer de parvenir à cette régulation. On ne parle pas des vieilles lunes au titre de la municipalisation des sols. Nous avons comme préconisation, nous avons proposé que sur les droits à construire, ils soient majorés en fait de 20 à 25%, c'est-à-dire d'intensifier la ville, ou de densifier la ville, mais quand on parle de densification de la ville, immédiatement, ça fait difficulté. Et on nous dit, oula, mais attendez voir, on va faire des villes de grande hauteur, etc. Si vous augmentez de 25% les droits à construire, vous allez augmenter en fait de 2 étages, vous n'allez pas défigurer la ville. Mais en revanche, sur cette décision politique qui conduit à augmenter en fait les droits à construire, vous pénalisez personne et vous permettez que ces droits à construire supplémentaires soient à charge, si ce n'est à charge nulle, en tout cas à charge maîtrisée pour rendre éligible les logements au titre de ce qu'on appelle les financements très sociaux. Donc il y en a 2 types de financements, c'est le prêt locatif aidé d'insertion et le prêt locatif à usage social. Au fond, pourquoi on ne veut pas? Parce que derrière cette question de la régulation foncière, en fait, il y a une autre question, c'est celle en fait de la mixité sociale et la question du vivre ensemble. Et que la question du vivre ensemble ou de la mixité, finalement, c'est une belle question pour des colloques. Je suis moins certain qu'en fait, on est tout à fait d'accord pour en fait faire en sorte que cette mixité, elle rentre véritablement dans les faits. Et la question qui est peut-être là aussi ce soir, c'est en fait, quelle ville voulons-nous construire pour que cette ville soit habitable pour tous ? Voilà, j'en resterai simplement là.
Merci Bernard. Quelle ville voulons-nous construire pour qu'elle soit habitable pour tous ? Je pense que ce sera un beau sujet pour tout à l'heure. Alors, Maître Messonna, ça vaut la parole.
Bien, merci, bonsoir à tous. Quelques mots juristes. Nous ne savions pas dans quel ordre nous allions parler, mais dans toutes les hypothèses, le juriste serait au milieu, donc je n'avais pas d'avis à donner sur l'ordre à proprement parler. Pour autant, quand j'entends le père de Vert, j'ai l'impression qu'il a à peu près cerné le problème juridique où il se trouve, car derrière le droit, il n'y a pas des mécaniques et des machines, il y a des hommes. On ne peut pas faire du droit sans humanité. Ça n'est pas vrai. Et ceux qui font les lois sont des hommes, et donc ils réagissent comme des hommes dans un contexte social donné à un moment X. Alors aujourd'hui, il me revient d'envisager sous l'angle juridique ou de philosophie juridico-judiciaire le problème du logement, et c'est dans cet axe unique que je vous propose de m'orienter. Alors, vous savez que le logement, c'est un terme déjà ancien, puisque ça vient du francique de nos ancêtres mérovingiens, et ça signifie la treille ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le sentiment de l'abri, hein, le logement, c'est-à-dire là où on est protégé des intempéries, de tout ce qui peut être synonyme de mort. Parler donc du logement pour un juriste, c'est envisager dans quelles circonstances l'homme peut, voire pire, a droit à une protection automatique contre une vie difficile. Alors, il m'est apparu, parce que le plan est bateau pour un juriste, mais il est simple à comprendre pour tout le monde, qu'il fallait examiner la question sous 2 angles. D'une part, le droit du logement, car c'est un peu ce qu'on nous demande, qu'en est-il du droit du logement ? Et deuxièmement, cette espèce de dérive nouvelle qui consiste à avoir droit à tout. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais je dis que c'est une situation présente en France et dans les pays occidentaux et qui pose difficulté et qui posera difficulté. Et donc là, c'est le droit au logement. Alors, en ce qui concerne le droit du logement lui-même, c'est-à-dire le corpus juridique qui régit le logement en soi, je me suis penché surtout sur une réflexion historique, parce que j'aime bien et parce que je crois que l'histoire doit servir à éclairer le présent. Alors, si on se penche sur l'évolution du droit du logement, on s'aperçoit finalement d'une double évolution. Dans un premier temps, et pendant très très longtemps, pendant des millénaires, le droit du logement a été essentiellement un droit politique. Depuis très peu de temps, il est devenu un droit dogmatique. Et ça n'est plus du tout la même chose. Droit politique d'abord, en ce que le logement, c'était le rattachement d'un homme à une terre. que ça soit à Rome, que ça soit dans la féodalité naissante ou dans la féodalité tardive, que ce soit même dans l'Ancien Régime, là où vous habitiez, on disait dans les coutumes, les manants levant et couchant dans un endroit, vous dépendiez, alors dans la féodalité d'un seigneur, dans l'Ancien Régime d'une coutume, mais en toute hypothèse, vous étiez rattaché à quelque chose qui déterminait l'intégralité de votre vie. Chez les Romains, d'ailleurs, l'habitat lui-même portait la trace un petit peu de ce qu'était le logement dans l'esprit des gens. On dit en latin un étage, on ne dit pas un étage, on dit une échelle, parce qu'il n'y avait pas d'étage et qu'il n'y avait qu'un seul niveau la plupart du temps. Il suffit d'aller à Pompéi pour s'en convaincre. Et donc, expulser le locataire se disait simplement retirer l'échelle. Donc là, il y avait un rapport contractuel violent, simple, on retirait l'échelle. Et puis, c'était terminé. À côté de cela, je vous ai expliqué l'évolution du droit du logement dans le cadre de l'Antiquité tardive, puis de l'Ancien Régime. On en est resté à peu près là, sauf que les règles n'existaient plus vraiment. Mais, le droit était en l'espèce politique, en ce sens qu'il permettait d'une part de rattacher à un seigneur, à une loi, à quoi que ce soit. Et il permettait d'autre part, étant présent dans cette circonscription, de payer les impôts qui allaient enrichir le seigneur ou lui permettre, quel que soit le régime et l'époque, de vivre au gré de sa volonté. Alors ça, c'est un droit qui est politique. On fait du droit pour poursuivre une idée précise. C'est le droit du souverain. Est-ce que par la suite, le système a changé? Pas tellement. On a tendance en France à enseigner que la Révolution crée une césure absolument parfaite, ce qui est, à mon sens personnel, sur le plan historique, une erreur majeure, enfin en tous les cas, une bêtise. Mais en toute hypothèse, on est au moment de Napoléon dans le cadre d'une mise en forme tout simplement des coutumes anciennes. On reprend un petit peu ce qui se passait avant. Et le droit du logement est un droit purement contractuel. Il y a le propriétaire. Il y a le locataire, il y a l'occupant. Et dans toutes les hypothèses, chacun a des droits qui sont définis par les textes. Celui qui en abuse est évidemment sanctionné. Celui qui ne respecte pas le contrat perd le droit au bénéfice précisément des dispositions contractuelles. Celui qui ne paye pas son loyer est expulsé, etc. Ce droit reste quand même quelque part éminemment politique. Il est celui qui permet de lever une partie des impôts. Vous avez tous entendu parler des impôts sur les fenêtres, etc., sur les cheminées. On a tout inventé en la matière. Sur l'urbanisme, vous parliez de l'urbanisme, Père de Vert, ça a été aussi un magnifique moyen de récolter des impôts. Le droit du logement a pour l'essentiel été politique. Il est devenu subitement dogmatique. Disons, par l'effet de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est surtout la rupture, c'est la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, vous savez comme moi, la France était à genoux, le logement n'existait quasiment plus, ou peu, ou mal, il fallait à tout prix trouver des solutions. Donc on a édicté une loi qui est connue des juristes, qui est la loi du 1er septembre 1948, une loi extrêmement violente, puisqu'elle s'introduit dans les contrats eux-mêmes, car jusqu'alors, l'idée de contrat depuis la haute antiquité. À Babylone, par exemple, si vous respectiez pas le contrat, on vous coupait la main, parce que le contrat était conclu devant le dieu Baal. Le contrat, c'était le summum, il n'y avait pas au-delà. Et en aucune hypothèse, un juriste, un juge, un législateur ne se serait permis de s'introduire dans le contrat. La loi de 1948 rompt totalement cet équilibre. Par l'effet d'un désir légitime qui était de permettre aux gens d'habiter quelque part, il n'est pas question de logement décent en l'occurrence. Il est question d'avoir quelques mètres carrés. Ça n'est pas la même chose. Donc la loi du 1er septembre 1948 va s'introduire dans les contrats et imposer à quiconque, bailleur comme locataire, des normes avec un prix au mètre carré, prix qui est révisé tous les ans, avec un mode de calcul du nombre de mètres carrés. Enfin, parmi vous, il y en a peut-être qui ont connu les lois de 48. Elles continuent de subsister, d'ailleurs, pour les personnes qui ont conclu à l'origine sous l'empire de la loi de 48. Elle a été abrogée depuis lors, mais elle continue de s'appliquer pour ceux qui l'ont conclu originairement. La loi de 48 a ouvert la voie à quelque chose qui s'est instauré à partir des années 80. La loi de 48 a perduré tranquillement, je dirais, un petit peu, mais les 30 glorieuses ont quand même modifié la donne. L'habitat s'est modernisé, et il se modernisait peu parce que précisément la loi était un frein considérable. Donc il faut aussi faire toujours le rapport entre le bénéfice que peut procurer la loi et hélas le désagrément qui peut en résulter. En l'occurrence, avec la loi de 48, il est évident qu'on n'a pas construit beaucoup, mais les promoteurs se sont beaucoup enrichis quand même. Et on a assisté alors à une valse que certains avocats ici présents ont sans doute connue, une valse hésitation à la fois ridicule, inefficace et affligeante, où les législateurs successifs se sont amusés en quelques années à bricoler la loi. Je vous rappelle, mais vous le savez bien, qu'en mai 1981, la gauche accède au pouvoir avec un programme dit commun qui est très marqué à gauche. Très rapidement, on va alors créer une loi, qui est une loi de 1982, que nous connaissons bien, qui est une loi extrêmement sévère pour les propriétaires, qui était alors carrément visée, purement et simplement visée, et qui est une loi collectiviste, puisqu'elle prévoit même la création de syndicats de locataires à l'intérieur d'une allée, à l'intérieur d'un immeuble, etc. Il y a là une optique qui est purement et simplement dogmatique. Alors évidemment, ça ne pouvait pas durer très longtemps, mais on aurait pu quand même essayer d'améliorer un peu les choses. Il n'en a rien été. La droite revient au pouvoir, je vous le rappelle, en 1986. Et qu'est-ce qu'elle fait ? À peine deux ou trois mois après avoir repris les rênes de Matignon, la droite, qui a alors la majorité au Parlement, vote un nouveau texte, la loi Méhaignerie, qui cette fois-ci prend, on peut le dire comme ça, en ligne de mire, les locataires. On est là dans un renversement complet de la doctrine antérieure, c'est-à-dire qu'on fait à nouveau du dogme, mais à l'envers. On fabrique une loi pour une partie de la population. Et bien, vous savez ça, c'est un réflexe d'Ancien Régime. Quand on fabrique une loi pour une partie de la population, on appelle ça une loi privée, lex privata, et lex privata en français, ça donne privilège. Et on croyait que la nuit du 4 août, eh ben, on avait mis un terme à l'opération, il n'en est rien. Mais évidemment, comme vous le savez, la droite, la gauche, revient au pouvoir en 89. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Immédiatement, elle vote une nouvelle loi, la loi Mermaz, qui cette fois-ci essaye de bricoler à nouveau en rétablissant ce qu'elle estime être les droits du locataire. Enfin bon, voilà. Tout cela est absolument ridicule. C'est tellement ridicule que pour un juriste, on a assisté pour la première fois en France à quelque chose d'absurde. C'est que la loi de 1989, ne pouvant être immédiatement appliquée faute de décret d'application, le législateur a dit « tant pis, le décret d'application de la loi de 89 sera le décret de 1987 qui appliquait celle de 86 ». C'est-à-dire que pour la première fois dans notre histoire, on a un décret d'application qui est postérieur à la loi qu'il est censé appliquer. Ouais, bon, n'importe quoi. Mais nous avons vécu cela et nous avons vécu cette source absolue de confusion pour tout le monde, et qui, à mon avis, a influé sur le marché, source de confusion, puisque lorsque les procès duraient un peu, on finissait par se retrouver sous l'empire de trois lois successives, sans savoir à la dernière minute laquelle on allait appliquer. Moi, ça m'est arrivé, on arrivait à la cour d'appel, bon, on avait une nouvelle loi, et là, on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, voilà. Alors, ça, c'est du droit dogmatique, ça n'est pas du droit sérieux, à mon sens. La loi, c'est l'expression de la volonté générale, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut toujours y revenir. C'est-à-dire qu'elle doit être équilibrée et qu'elle doit être faite avec raison. Quand elle sort de l'équilibre et qu'elle sort de la raison, alors elle n'est plus une loi sérieuse, elle devient quelque chose qui ressemble à du dogmatisme. Donc la loi est devenue dogmatique et directiviste en l'occurrence. C'est une tendance qu'on retrouve dans d'autres domaines du droit, mais qui persiste dans le logement sans doute parce que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. C'est un enjeu économico-social qui n'est pas négligeable. Vous savez qu'on dit que quand le bâtiment va mal, tout va mal. Hein, le bâtiment tousse et tout le monde éternue. Bon. Donc on a peine, quand on est législateur, à toucher au droit du logement. Alors, on fait un petit coup de dogme, et puis on s'arrête. Celui qui vient derrière fait un petit coup de dogme, il s'arrête, et ainsi de suite. Mais depuis 1989, les législateurs ont été suffisamment sages pour essayer de ne plus trop toucher, parce qu'on mettait en danger tout l'équilibre du système. Alors ça, c'est le droit du logement, avec ses tendances lourdes telles que je les imagine. Vous n'êtes pas du tout obligé de penser comme moi. Je ne prétends ni à la vérité ni à l'exhaustivité. C'est un point de vue personnel. Mais il est un deuxième domaine qui me frappe beaucoup, j'allais dire qui me choque. Le mot serait violent sans doute, en tous les cas trop puissant. C'est le droit au logement. Alors là, une observation sociale, une observation juridique. L'observation sociale, vous avez constaté, comme moi, que depuis les années 80, on voit fleurir un ensemble de droits. Alors là, tout le monde a des droits. Ils apparaissent dans tous les domaines. Je vous signale même qu'on a créé un titre 11 de la Constitution de 1958 qui ne comporte qu'un seul article, mais qui vise précisément le défenseur des droits. Il n'y a pas de défenseur des obligations. Et le drame en matière de logement, c'est quand même que s'il y a des droits d'un côté, il devrait aussi y avoir des obligations de l'autre. Et là, on assiste à une dilution de la notion d'obligation en droit français. On voit par exemple des propriétaires qui ont construit sciemment en zone inondable faire des procès aux municipalités qui leur ont délivré des permis de construire. Bon, là, il faut quand même bien se poser la question de savoir si lorsque je signe et que je suis conscient de signer quelque chose, malgré tout, je suis totalement inconscient et imbécile. C'est pas parce qu'en face, il y a une force publique, une force d'État, une force municipale, que pour autant, celui qui signe est un imbécile. Or, estimer qu'il n'y a que des droits et plus d'obligations, c'est estimer que certains sont plus intelligents que d'autres, et ça, un juriste ne peut pas l'admettre. Et parmi ces droits, alors on a toute une litanie de droits, et je me suis penché hier soir sur le droit au logement en me disant, mais si c'est un tel droit, s'il est aussi puissant juridiquement, il doit se trouver dans ce qui pour nous est le fondement même, c'est-à-dire, au-delà des conventions européennes bien sûr, la Constitution de 1958. Eh bien, dans la Constitution de 1958, il n'y a rien sur le logement. Alors on se dit, peut-être, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car c'est également le fondement de notre République. Il n'y a rien non plus. Alors il ne nous reste qu'une unique piste, c'est le préambule de la Constitution de 1946, car vous savez qu'en 1958, on a renvoyé au préambule de la Constitution de 1946. Et voici ce que dit ce préambule, mais il ne vise pas le logement. Il dit « La nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Quand j'ai commencé, je vous ai dit logement égale abri, égale protection, égale repos. Alors on peut extrapoler à partir de cette phrase et se dire que peut-être en 1946 on a songé déjà au logement. Mais ça n'est pas dit du tout et on en est très très loin. Alors c'est cette conception élargie du droit qui efface en contrepartie les obligations et qui me laisse éminemment perplexe. Alors vous avez aujourd'hui un sujet facile, c'est celui du mariage des homosexuels par exemple. Bon. Il y a là, me semble-t-il, un travestissement intellectuel. Le problème n'est pas celui du droit au mariage, ça c'est rien. C'est un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe. Mais le placer simplement sous l'angle du mariage et du droit au mariage pour tous, c'est en quelque sorte ne pas discuter du fond même du dossier. Et si vous prenez la liste des droits maintenant, on égrène en droit français des droits. Alors tous les jours, il y en a des nouveaux, mais pour autant, je ne suis pas persuadé que derrière, il y ait quelque chose de sérieux. Or, c'est précisément la volonté du peuple qui compte, je le répète, ce que veulent les Français. Le mariage homosexuel, c'est pas gênant en soi, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est l'inégalité des droits matrimoniaux, ça c'est clair. Patrimoniaux, je veux dire, ça c'est tout à fait clair. C'est insupportable. Mais pour le reste, c'est un problème de fond dont il faudrait peut-être débattre avec beaucoup plus de simplicité que ce qui se fait actuellement et au-delà de l'invective de quelques imbéciles dans un hémicycle où ils ont seulement la chance d'être là parce qu'ils ont été élus. Ça n'a pas de rapport sérieux avec ce que devrait être la loi. Alors, oui, oui, mais c'est fini. Oh, ben, si, il me reste 3 minutes, mais c'est beaucoup trop. Alors, donc, j'en ai terminé par le deuxième aspect, j'ai dit un aspect social ou sociologique et un aspect juridique. Alors, le droit au logement dans le droit français, qu'en est-il ? Il y a deux catégories. Il y a premièrement le logement décent. Le droit à un logement décent. Alors ça, c'est une loi relativement ancienne, si j'ose dire. Évidemment, au plan de l'histoire, elle ne l'est pas du tout. Mais enfin, elle remonte à 1987. C'est un décret d'application, un décret plus précisément, qui précise que le logement doit être décent. Alors il décrit ce qu'est un logement décent. Vous pouvez faire résilier le bail si vous êtes locataire dès lors que le logement ne serait pas décent. Voilà. Alors je passe sur les détails, mais c'est la première fois qu'apparaît en droit français la notion de logement décent. Donc le premier aspect, c'est un droit au logement décent. Et puis il y a un deuxième aspect qui est plus récent encore, qui est le droit au logement opposable, ce qu'on appelle le DALO. D-A-L-O. Alors le droit au logement opposable, c'est une création d'un article à l'intérieur du Code de la construction et de l'urbanisme. Et c'est l'article 300, je ne sais plus quoi, tiré 1 du Code, etc., qui vise à... C'est une loi du 5 mars 2007, donc extrêmement récente, qui crée cet article et qui dit la chose suivante. Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'État à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens. On se retrouve là dans une notion tout à fait nouvelle où l'État est garant, ce qui n'a jamais été le cas du prince précédemment, où l'État est garant du logement décent. Et vous savez que si l'État ne donne pas un logement décent, il peut être condamné. Les tribunaux administratifs ne se privent pas au jour d'aujourd'hui de condamner les municipalités et l'État plutôt, de condamner l'État à des dommages d'intérêt parce que précisément ils n'ont pas respecté ce droit au logement opposable. À quoi est-ce que tout cela a servi ? À rien. À rien, à mon sens. Si vous regardez les chiffres, alors moi j'ai pas ceux du Père de Verre, mais j'ai pris ceux du Nouvel Obs. 411 000 personnes sont hébergées chez des tiers. Se loger est difficile pour 3 personnes sur 4. 3,6 millions de personnes ne sont pas ou mal logées. Ça veut dire que les politiques suivies en la matière n'améliorent rien. Il est vrai. Que parallèlement, les classes moyennes, ça c'est un vrai problème, parallèlement les classes moyennes peinent de plus en plus à accéder à la propriété, mais sont aussi l'objet par moment d'une certaine forme de matraquage fiscal qui limite quand même leur pouvoir d'achat. Ce qui fait que ceux qui pourraient être des locataires bien payants, dans des lieux éventuellement bien placés, ne peuvent même plus. Ou peuvent difficilement. Et à Paris, je reste toujours frappé le soir de voir ces gens qui travaillent et qui dorment dans la rue. Des travailleurs pauvres, on appelle ça. Et il y en a de plus en plus et c'est frappant. Alors, j'en ai terminé, mais sur le plan de la philosophie juridique, je me dis que quel altruiste que puisse être le législateur, il se heurtera toujours à deux réalités qui sont ses limites naturelles, c'est-à-dire les réalités économiques et les réalités humaines. Père Devers, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais si l'économie est en panne, on aura de la peine à trouver de l'argent pour que les gens puissent payer un loyer. Et si le législateur est lui-même en panne, on aura de la peine à aller de l'avant. La loi de 48... C'est une loi extrêmement avant-gardiste dans le propos, dans son intelligence. Ce directivisme a été pratique, a permis de loger des tas de Français. En France, on reste toujours à moitié du guet. Donc vous avez des lois, et vous avez parlé de la loi du flot, effectivement, j'allais y venir. Elle est de 2013, c'est le dernier texte en matière de droit au logement, du 18 janvier 2013. Alors elle prévoit qu'on va augmenter par 5... le prélèvement effectué sur les impôts collectés par les municipalités qui ne respecteraient pas le contingent, moi je croyais que c'était 20%, mais enfin bon, le contingent de logements sociaux à l'intérieur de la municipalité. Eh bien, je le dis sans embâge, ceci est une bêtise, à mon sens, parce que les municipalités qui ne respectent pas la loi à cet égard sont composées de citoyens à un niveau de vie élevé, et qui sont prêts à payer encore un peu plus d'impôts pour précisément éviter la mixité sociale. Donc, on a un autre problème qui n'est pas celui directement du législateur, qui est un problème social. Et tant qu'on n'aura pas surmonté et la difficulté économique de la France et ce problème social, je ne dis pas qu'il faut rien faire, hein, j'ai pas dit ça, nous n'aurons pas une loi équilibrée, car la vraie loi, c'est celle qui est équilibrée. Et aux confrères ici présents, je rappelle tout simplement, ils le savent, l'ex-décret de 53 sur les loyers commerciaux, c'est un texte absolument fabuleux qui, depuis 1953, n'a jamais bougé. On l'a bricolé un petit peu, mais à peine. Ça fait plus de 50 ans qu'il fonctionne. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'il est équilibré entre les uns et les autres. Et cette spéculation foncière est insupportable. Et le législateur a les moyens de la limiter, mais il ne le veut pas. Dans la mesure où il ne le veut pas, la loi ne signifie plus rien. Elle ne sera jamais que bricolage. Voilà, j'ai déjà été trop long.
Voilà, merci beaucoup. Alors, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut que l'économie puisse entraîner des dispositions favorables, il faut également qu'une sociabilité de chacun puisse accepter la mixité qui permette de construire comme il le faut. Alors, pour terminer, je vais repartir un petit peu des propos de Maître Messonnas sur la mise en question du droit au logement. Donc, à première vue, et je pense que l'exposé Bernard Devers était bien éloquent, on ne peut que se lamenter de la difficulté que de nombreux contemporains ont à se loger. Donc, ceci étant lié à la misère, à la précarité. Et donc, la question est de savoir quels sont les moyens qu'il faut employer. Et donc, nous avons au cœur des moyens qui sont évoqués le plus souvent les droits, le droit au logement. Un droit subjectif parmi d'autres droits, un droit qui appartient également à ce qu'on appelle la deuxième génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits sociaux, étant entendu, comme l'a dit Maître Messonnas, que ces droits sociaux ont mis très longtemps à apparaître dans les grands textes. C'est ainsi que, dans la Déclaration universelle de 1948, la question du logement n'est abordée que de façon oblique. À l'article 25, on lit « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement. » Mais on sait que le droit au logement n'est apparu que très récemment. Il n'empêche que c'est un dispositif qui est caractéristique du développement de ce qu'on appelle les droits subjectifs et qui est caractéristique aussi d'une modification de la philosophie du droit du côté de ce qu'on pourrait appeler le subjectivisme juridique. Comme si le droit, les lois finalement, votées par le législateur, ne devaient être qu'un ensemble de droits considérés les uns à côté des autres pour prendre en compte un certain nombre de besoins sociaux ou personnels. Et donc, c'est ce point que je voudrais, à la suite de Maître Messonnas, mettre en question. Et tout d'abord, faire voir qu'il y a avec le droit au logement comme une parole incantatoire, presque magique, comme s'il suffisait effectivement de parler du droit au logement pour que des questions se règlent. Et on peut être surpris du caractère redondant de ce qui apparaît dans le DALO, à savoir le droit opposable. Donc ça veut dire un droit exigible absolument, de telle sorte que la puissance publique est sommée de répondre de la façon la plus rapide aux besoins qui sont formulés. Alors, avant de connaître la signification de ce terme, je pensais naïvement que opposable, ça voulait dire opposable à d'autres titulaires de droit. Non, c'est donc tout à fait autre chose. Alors, donc, tout se passe comme si il fallait, pour que ce besoin fondamental qu'est celui de se loger soit satisfait, qu'il passe par des droits. Et donc, on demande aux législateurs de trouver des dispositifs écrits satisfaisants pour que des réponses puissent être apportées. Or, comme l'a très bien dit dans sa conclusion Maître Messonnas, il faut être réaliste et considérer les moyens qui sont réellement disponibles pour faire face à ces besoins si importants. Et donc, les moyens doivent être, certes, législatifs. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais il faut que les moyens soient politiques et que l'on puisse mettre en place une véritable politique de la construction avec des moyens adaptés, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des gens qui acceptent aussi l'économie solidaire. Il faut accepter la prise en compte nécessaire des délais. Il faut aussi, bien sûr, l'action privée des associations qui sont engagées très précisément dans la construction de logements sociaux, comme Habitat Humanisme, Notre-Dame des Sans-Abri, la Fondation Abbé Pierre. Et puis, là aussi, je reprends ce que disait Maître Messonnas, il faut que nous tous soyons disposés à donner un petit peu de nous-mêmes, un petit peu de toi. C'était une devise d'une campagne d'Habitat Humaniste. Donne-leur un petit peu de toi, un petit calembour, T-O-I-T, que nous acceptions de renoncer un petit peu à notre confort, et notamment si nous habitons dans des communes plutôt riches, accepter que d'autres types d'habitats puissent être construits à côté de chez nous. Et je n'évoque qu'à peine l'éventualité de pouvoir accueillir chez soi pour un certain temps des personnes en difficulté, qui ici requièrent véritablement ce qu'on peut appeler la charité. L'amour, en somme, bien sûr. Alors, je reviens un petit peu rapidement sur cette ambiguïté de cette philosophie du droit qui voudrait que le droit soit fait de la mise en place des différents droits. Le problème, c'est qu'on arrive très vite à un conflit. Et là aussi, je reprends l'idée de Maître Messonnas. On arrive à un conflit entre des droits-principes. Et pour ce qui nous concerne, le droit au logement et le droit à la propriété. Dans le droit à la propriété, il y a l'usus, bien sûr, mais il y a aussi, selon une vieille tradition, l'abusus. Ça veut dire que d'un bien que l'on possède, on peut faire ce que l'on veut en fonction de ses intérêts personnels. Et donc, on voit bien ici le conflit entre deux droits principes. Et donc, comment va-t-il être réglé? Et Maître Messonnas évoquait tout à l'heure la valse des lois qui tantôt privilégient l'un des droits, tantôt l'autre. Et derrière le conflit entre les droits-principes, il y a les droits des usagers, les droits des personnes, les titulaires des droits. Et donc, pour ce qui nous concerne, ce seront par exemple les locataires qui n'ont pas la possibilité de satisfaire le droit au logement en acquérant un logement, et donc qui ont besoin de passer par un logement qui appartient à autrui. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, le droit des propriétaires qui vont chercher à faire fructifier de la meilleure façon leur capital. Donc on voit que si l'on parle des droits, droits des locataires, droits des propriétaires, le législateur et derrière lui le politique, sommés alternativement par les uns et les autres de leur donner satisfaction, va peser d'un côté puis peser de l'autre. Et donc on s'aperçoit de l'extrême précarité finalement de cette philosophie du droit et de cette philosophie politique qui voudrait qu'on règle les besoins humains en les convertissant en droits, les droits s'avérant, comme je l'ai suggéré, naturellement antagonistes entre eux. Et donc on peut se demander si gouverner un pays, gouverner une société, être législateur, c'est prendre en compte successivement les droits des uns et des autres, et notamment dans d'autres domaines que vous avez évoqués. On pourrait évoquer précisément le conflit entre les droits de l'enfant, les droits des parents, bon. Donc, ça n'est pas la bonne solution. Et un philosophe comme Burke, dès la fin du XVIIIe siècle, a été le premier à mettre en cause cette nouvelle philosophie du droit qui est la philosophie des droits de l'homme, en dénonçant le fait que l'on voudrait résoudre des questions complexes, qui sont les questions humaines, les questions sociales, en les réduisant à des éléments simples. Alors, c'est vrai que Descartes n'est pas très loin en France de la philosophie des droits de l'homme, comme s'il suffisait pour résoudre des problèmes complexes, de les réduire en problèmes simples qu'on puisse résoudre les uns après les autres. Eh bien, Burke dit que la réalité sociale est bien trop complexe pour qu'on puisse ainsi trouver des solutions simples. Et donc, il faut prendre d'emblée la réalité sociale dans un souci, vous l'avez évoqué, Maître, un souci d'harmonie, un souci d'équilibre. Et d'ailleurs, Michel Villet, philosophe du droit, qui est très critique par rapport aux droits de l'homme, avait salué en Burke un philosophe qui rappelait finalement l'intuition d'Aristote, selon laquelle la justice est avant tout le souci de l'équilibre. Et donc, gouverner, c'est prendre en compte la complexité de la réalité, et donc chercher des solutions sans prétendre qu'elles soient jamais faciles. Alors, à partir de là, je voudrais aborder un deuxième point. Au-delà du besoin de loger, qui est un besoin pressant, urgent, on peut se demander s'il ne convient pas de viser d'autres besoins plus complexes en l'homme, et notamment un besoin qui serait celui de l'habiter. Alors avec Bernard Devers, il y a une quinzaine d'années, on avait beaucoup travaillé dans le cadre d'un laboratoire sur le thème « loger ou habiter ». Et donc je vous livre quelques éléments de notre réflexion de cette époque-là. On peut dire que, incontestablement, dans la deuxième partie du XXe siècle, en matière de philosophie du logement, on a beaucoup avancé pour chercher à donner à tous non seulement un toit et des murs, mais également des logements décents, c'est le mot que vous employez, avec donc la volonté de lutter contre l'insalubrité. Il ne faut pas oublier qu'à Lyon même, dans les années 50, on logeait à Lyon, dans le vieux Lyon. Lorsque j'avais 17 ans, j'apportais des repas pour les petits frères des pauvres dans le vieux Lyon. Mais il fallait voir dans quelles conditions on vivait sous un toit, derrière des murs. Donc il est clair que le logement ne suffit pas, il faut qu'il soit décent. Il faut qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de la lumière. C'est un petit peu l'idéal de la cité radieuse de Le Corbusier. Or, il est apparu que le fait de donner un logement décent, avec, comme on dit, tout le confort moderne, entre guillemets, ne suffit pas à créer les conditions du bonheur individuel et social. Et à la suite de Le Corbusier, vous savez quelles sont les belles cités qu'on a pu construire dans la périphérie de nos grandes villes, à Lyon par exemple. Et donc incontestablement, ces logements présentent toutes les caractéristiques qui les rendent conformes à toutes sortes de règles qui d'ailleurs sont souvent de plus en plus draconiennes. Donc il y a tout ce qu'il faut, dont la lumière, dont le soleil. Et bien malheureusement, vous savez que ces grands ensembles génèrent de la pathologie sociale. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de loger, il faut donner à habiter. Donner à habiter, c'est-à-dire avoir sa demeure. En grec, c'est le mot « ethos », qui sera traduit en latin par « habitus », qui désigne la demeure. Donc pouvoir habiter, habiter dans une communauté avec sa famille, habiter dans un quartier, dans un village, habiter dans un environnement convivial, habiter également avec d'autres, vivre ensemble, on l'a dit, dans ce qui est cher comme idéal, habitat humaniste, c'est-à-dire la mixité, mixité sociale, mixité d'âge, mixité ethnique éventuellement, ou mixité d'activité. Et donc on voit bien le danger de ces ghettos qui ont été construits à la périphérie des villes pour fabriquer des logements conformes précisément aux normes, des normes évidentes. Voilà. Alors, à partir de là, on pourrait mettre en évidence ce qui est un besoin de l'homme au-delà du logement. Et là, je voudrais faire deux remarques qui peut-être pourront vous étonner. Tout d'abord, je dirais que si loger, c'est mettre comme des bouteilles dans un casier, c'est un petit peu une expression qu'on trouvait dans les années 60. S'il s'agit de fabriquer, comme on disait, des machines à habiter, alors là, véritablement, on ne résout pas les problèmes qui nous sont importants. Et donc, premièrement, je dirais que on doit pouvoir prendre en compte un autre besoin humain, qui est le besoin de liberté. Et il faudrait se méfier par rapport à des tentatives d'embrigadement par le logement, comme on les voyait au XIXe siècle dans les cités ouvrières, comme par exemple Schneider au Creusot. On entend souvent parler aussi, mais là je vais être très prudent, il n'y a pas très longtemps, une ministre de la ville voulait rendre obligatoire pour les personnes sans abri le fait de rejoindre un centre d'hébergement. Eh bien, il faut accepter qu'on ne peut pas loger à n'importe quelle condition si précisément la liberté n'est pas pleinement prise en compte. Voilà. Deuxième remarque un petit peu critique, je dirais que si habiter, c'est au-delà de loger, il faudrait considérer qu'appartiennent à l'habiter des activités qui ne se réduisent pas à celles de loger. Comme par exemple les activités qui s'exercent dans la vie au-delà du temps et du lieu du logement. Je pense en particulier à toutes les activités dans la ville, et notamment celles qui touchent au travail. Et je voudrais ici évoquer, au début du XIXe siècle, une analyse qui, je crois, est encore très intéressante. C'est celle que Marx faisait d'une activité aliénée, celle du travail aliéné précisément, où l'homme ne se sentait véritablement lui-même que dans le domicile. Et Marx disait, l'homme ne se sent chez soi que dans des activités de caractère domestique. Alors évidemment, ici, l'attaque est assez rude, mais vous verrez en vue de quoi elle peut être comprise. Marx se demande, est-ce que suffisent à définir l'activité libre de l'homme, le fait de se nourrir, le fait même de se reproduire? Est-ce qu'on ne doit pas considérer que l'homme peut être chez soi, en allemand « bei sich », c'est-à-dire auprès de son humanité, en d'autres temps et en d'autres lieux que celui du logement? C'est-à-dire, j'évoquais un travail libre, un travail responsable, et plus largement, on pourrait dire, la vie citoyenne. Et là, je voudrais évoquer un autre auteur des années 60, Hannah Arendt, qui avait insisté sur le fait que la vie publique, la vie dans l'espace urbain, la vie dans la rue, offre aux citoyens une véritable liberté, celle d'habiter la ville, et qui tranche avec la vie domestique, la vie qu'on appelle privée. Et Hannah Arendt remarque que la vie privée, c'est pas simplement une vie qui exclut autrui, mais c'est une vie dans laquelle on est privé soi-même, éventuellement, de toute une dimension de la vie proprement citoyenne, celle du politès en grec, qui veut dire le citoyen, l'homme de la politéia. Alors il y a des textes ironiques d'Hannah Arendt sur la façon dont les Français, petits bourgeois souvent malheureusement, mettent tout leur idéal à arranger leur vie domestique. Je cite « Les Français sont passés maîtres dans l'art d'être heureux entre leurs quatre murs, entre le lit et l'armoire, le fauteuil et la table, le chien, le chat et le pot de fleurs. » Voilà. Donc, peut-être par rapport aux propos de Bernard Devers, ce que je viens de dire peut apparaître comme un petit peu intempestif. Je vais essayer de montrer que, oui, bien sûr, que c'est un besoin fondamental que celui d'avoir un logement, et qu'il puisse être un logement décent, mais plus encore confortable, un lieu où l'on puisse se reposer, où l'on puisse retrouver les siens. Mais vous voyez qu'une politique et même un droit qui, parce que saisi par l'urgence, voudrait se focaliser sur le logement, eh bien, ce droit, cette politique, risquerait d'oublier d'autres besoins, des besoins qui sont au-delà de celui du logement. Et là, on pourrait aussi évoquer une philosophe comme Simone Weil, qui est précisément l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'enracinement », et qui a mis en évidence la complexité des besoins sociaux qui doivent être pris en compte en même temps par les responsables. Voilà, donc, pour terminer, par rapport aux besoins humains les plus importants, il faut bien sûr les considérer de façon lucide, avec des moyens techniques appropriés, mais il serait très insuffisant de vouloir prétendre les résoudre de façon simple. Et encore une fois, il suffit de revenir à la valse des lois des années 70, enfin 48 jusqu'à 90, pour s'apercevoir qu'il faut que le politique puisse d'emblée prendre en compte le logement en lien avec les moyens qui sont disponibles et, comme l'a dit Bernard Devers, avec plus radicalement la possibilité de compter sur une économie qui soit saine, et puis aussi, comme on l'a dit, sur un véritable engagement de tous les citoyens pour que ces problèmes puissent être résolus.